Et on va s'intéresser à la cellule archéologique du département du Lot avec quelque chose qui est bien d'ailleurs entre parenthèses, c'est qu'il y a un nom dessus qui s'appelle archéologie préventive. Pourquoi ? Ben on va essayer de comprendre ça avec nos invités. Il s'agit de Caroline May qui est vice-présidente au département au niveau du département aux sciences du patrimoine et des archives, et puis de Étienne Lalot qui est responsable de la cellule archéologie dans le Lot. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Et bonjour Étienne.
Et bonjour.
Alors Caroline, en tant que vice-présidente, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle effectivement de la cellule archéologie ? Parce que je parle de Cahors parce qu'on est à Cahors, mais en général dans le département, il y a des superbes trésors sous nos pieds, on ne s'en rend même pas compte.
Oui, en effet. Nous avons souhaité, le département du Lot a souhaité créer une cellule archéologique voici 10 ans déjà, parce que nous voulions faciliter les projets d'aménagement qui en nécessitent une réactivité pour déceler s'il y a ou non un trésor caché avant tout aménagement.
Alors qu'est-ce que vous en faites de tous ces trésors ?
Elles sont étudiées, ces trésors sont étudiés, un rapport est fait par nos équipes, effectué par nos équipes. Nous travaillons bien sûr avec le service régional de l'archéologie, avec l'État, et ils sont étudiés et si possible, bien sûr, l'idéal c'est que ce soit présenté dans des musées.
Et tous ces trésors, vous-même, vous êtes, intéressé, j'imagine, en tant que vice-présidente. Est-ce qu'il y a quel est le trésor, j'ai envie de dire, remarquable que l'on a trouvé, d'après vous, selon vous ?
Alors oui, moi je suis très attachée, j'ai fait de l'archéologie toute ma vie et je suis professeure d'histoire, mais bon.
Ça tombe bien.
Oui, c'est pour ça que monsieur le président Rigal m'a confié cette mission. C'est sans doute le squelette mérovingien que nous avons trouvé cité Bessières voici 3 ans, je pense, que nos équipes ont trouvé et qui a fait la une des journaux en France entière, oui.
Cité Bessières, là où il y a effectivement le département du Lot qui est instauré.
Oui, lors des aménagements devant la cité, en effet.
Alors, ça veut dire que là où il y a notre studio de radio, il y avait ce squelette mérovingien. C'est assez impressionnant.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. Alors du coup, Étienne Lalot qui est responsable, la question que l'on se pose, c'est comment vous êtes au courant s'il se passe quelque chose, enfin s'il y a quelque chose dans le sol. Est-ce qu'on est obligé de faire appel au département avant de bâtir quelque chose ?
Alors l'archéologie que nous on pratique ici, c'est l'archéologie préventive. Elle se passe en plusieurs étapes. La première étape, en fait, si vous voulez, un aménageur, qu'il soit public ou privé, va envoyer un permis de construire à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui va regarder le permis de construire en question et en fonction de la superficie et de la sensibilité de la zone géographique, va prescrire ce qu'on appelle un diagnostic archéologique. Alors un diagnostic archéologique, c'est pas une fouille à proprement parler. En fait, c'est plutôt destiné à comprendre la nature du sous-sol, à voir s'il y a des vestiges, quels sont les états des vestiges, etc. Donc dans ce cas-là, on intervient, on fait à peu près des tranchées sur 10% de la superficie de l'emprise où va y avoir l'aménagement. On rend un rapport à l'État après cela. Donc en fonction des vestiges et de la qualité du rapport, l'État peut prescrire une fouille ou, s'il n'y a pas de vestiges, va dire à l'aménageur, vous pouvez directement faire votre aménagement. S'il y a une fouille, l'aménageur va avoir, on va dire, 3 choix. Soit essayer d'adapter son aménagement pour qu'il impacte un minimum la nature des vestiges archéologiques, soit abandonner son projet, soit financer une fouille préventive. Auquel cas, il fera appel soit à la cellule archéologique du Lot, soit à l'Institut national de la recherche en archéologie préventive, ou l'INRAP, ou depuis 2003 à une structure privée. Voilà, donc là c'est un appel de projet, il faut poser un devis et l'aménageur fait son choix ensuite. Mais c'est le principe de destructeur-payeur.
Alors j'imagine qu'on ne rentre pas dans le même dans la même catégorie s'il faut fouiller un petit peu plus. Est-ce qu'on peut dire adieu à ces travaux finalement ? Est-ce que l'État préempte le terrain en disant bah, « désolé, là il y en a pour un bon moment » ?
Alors l'État ne préempte pas, en fait si vous voulez l'aménageur a toujours le choix. C'est-à-dire que si financièrement il peut couvrir le coût d'une opération archéologique, aussi étendue soit-elle, il n'y a pas de problème, les archéologues vont intervenir, ils vont prélever toutes les informations du terrain et ensuite l'aménageur pourra réaliser son aménagement et donc faire les destructions. En revanche, s'il y a un bâtiment ou une découverte absolument extraordinaire, un amphithéâtre par exemple à Cahors, on peut aussi essayer de protéger ce vestige-là, l'insérer dans le projet d'aménagement, etc.
Est-ce que c'est pas un frein, par exemple, alors je ne sais pas qui de vous deux pourra me répondre, mais pour quelqu'un qui veut construire quelque chose et de se dire, mince, j'ai pas envie non plus que mon projet, alors je suis un promoteur par exemple, j'ai envie de construire quelque chose, est-ce que c'est pas un frein pour eux en se disant, mince, je risque d'être coincé quoi. Caroline, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Vous posez là la question de l'importance du patrimoine. Ouais. Le patrimoine, c'est un bien commun, donc tout un chacun doit être motivé pour le sauvegarder. Donc un frein non, grâce à notre cellule qui est particulièrement réactive, ça ne sera pas beaucoup de temps perdu que de faire ces recherches-là. Par exemple, tout à l'heure, Monsieur Lalo parlait de pouvoir aménager quand même, vous avez à la Chambre d'agriculture, des morceaux de rempart, non, d'amphithéâtre qui sont à la vue des visiteurs et donc qui ont pu être insérés au projet d'architecture de la maison d'agriculture. Donc voilà, le tout c'est de réfléchir intelligemment à plusieurs.
C'est un peu comme le parking d'ailleurs souterrain à côté sous les allées Fénelon. Comment on arrive à finalement, j'ai envie de dire, à y investir un amphithéâtre si mes souvenirs sont bons dedans, et quand même le parking a été construit, c'est une sacrée négociation alors j'imagine.
C'est ça, oui, c'est tout un travail qui a été mené, mais qui aujourd'hui du coup permet à la fois aux visiteurs de découvrir ces vestiges et au parking d'avoir été construit. Donc les solutions sont possibles, il faut travailler ensemble.
Oui, bon, forcément en fait l'archéologie ça peut représenter un frein à l'aménagement, mais de par la qualité du patrimoine qu'on va mettre au jour, mais ça évite aussi certains scandales. Si vous voulez, avant 2001 et la loi pour l'archéologie préventive, il y a eu énormément de scandales en France avec des destructions, notamment en centre urbain, de sites archéologiques absolument fantastiques. Et aujourd'hui, c'est absolument irrécupérable. Donc c'est un patrimoine qui a totalement disparu. Il y a eu l'affaire de Rodez qui a enclenché un petit peu, notamment cette loi patrimoine de 2001. Mais on a eu tout un tas de sites comme ça qui ont disparu de la connaissance de tout un chacun. Et c'est notre patrimoine à tous qui est à ce jour a complètement été anéanti quoi.
Combien de temps vous restez sur un endroit ?
Ça dépend beaucoup de choses, ça va dépendre de la superficie du site, de son intérêt, du nombre de vestiges qu'on va mettre au jour et de l'épaisseur stratigraphique, hein, c'est-à-dire les niveaux d'occupation, de remblai, etc. qui se succèdent, toutes les couches de terrain en fait.
D'accord. Quels sont les prochains projets pour la cellule archéologique, Caroline May? Est-ce qu'on se contente tout simplement d'attendre presque que les choses nous viennent, ou est-ce que la cellule peut se permettre aussi de dire tiens, je pense que là, si on regarde dans les archives, il peut y avoir quelque chose, on devrait y aller.
Donc, nous avons d'autres missions, cette cellule a d'autres missions. Déjà, c'est de porter à la connaissance de tous les Lotois et de tous les Français des richesses qu'elle a trouvées. Donc il y a tout un travail de médiation, un travail d'études, mais aussi de médiation qui sont menées avec des accueils de scolaires à qui on fait par exemple visiter les vestiges du Cahors gallo-romain, hein, pour vous donner cet exemple. Et là, on veut donner un accent supplémentaire à ces actions de médiation avec des cycles de colloques, de conférences et encore une fois d'expositions, de publications également, hein, à destination de tous. Ça, c'est un point très important de notre projet.
On se souvient d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, vous étiez à l'espace Bessières, vous avez fait une superbe exposition qui a été appréciée aussi et un colloque. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces colloques? Est-ce que c'est ouvert déjà à tout le monde?
Oui, c'est ouvert à tous. Et pour moi, inciter les Lotois, les gens, à prêter attention à leur patrimoine, c'est leur faire connaître d'abord. Hein. Puis en tant qu'enseignante, je sais très bien qu'expliquer aux jeunes, notamment d'où, pourquoi tel vestige est là, quelle est leur histoire finalement, ça leur permet de s'ancrer dans la vie d'aujourd'hui et ça aide beaucoup à vivre. Et pour protéger ce patrimoine, c'est de notre responsabilité. Hein. Donc il faut faire connaître et c'est pour ça que nous allons développer toutes ces actions-là.
Où est-ce qu'on peut les voir, ces trésors, là, maintenant, actuellement, si on a envie de s'intéresser?
Alors, la plupart des trésors, en fait, ne nous appartiennent pas en propre. Hein. Normalement, ça appartient à l'État. Également, ça peut appartenir. C'est un petit peu compliqué, mais en partie au propriétaire du terrain, s'il a acquis le terrain avant 2016. Enfin, tout ça, c'est un petit peu complexe. Et alors, on peut les voir, si vous voulez, en fait, quasiment l'intégralité des collections que nous récoltons partent à l'étude. Et derrière, généralement, elles sont entreposées pour des études ultérieures et surtout pour être protégées. On va dire qu'il y a peut-être un dixième des collections qui un jour est voué à être exposée encore.
Et qui est-ce qui les étudie ?
Alors c'est des spécialistes, hein. On a des spécialistes pour absolument tous les domaines, ça peut être la céramique, ça peut être l'étude de la faune, l'anthropologie, hein, tout ce qui est matériel et osseux humain, voilà, tout ça on a des spécialistes qui généralement un bac plus 5 minima et qui étudient ces collections-là, parce qu'évidemment on ne peut pas être spécialiste de tout, donc on délègue un peu également.
Mais c'est plus du ressort du département dans ce cas-là?
En fait, le responsable de l'opération de diagnostic ou de fouille garde en fait la responsabilité de son opération jusqu'au bout. Donc c'est lui qui va diligenter des études auprès de prestataires ou de collègues. Et à la fin, c'est lui qui va assembler les études avec son rapport pour essayer de mettre tout ça en perspective.
C'est quoi votre rôle à vous en tant que responsable de cellule alors en fait dans tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut coordonner.
Alors mon rôle, je suis avant tout archéologue, donc il m'arrive d'intervenir également sur le terrain, encore heureux. Donc j'ai un rôle opérationnel, après j'ai un rôle on va dire un petit peu plus de manager, essayer de réaliser la programmation, savoir qui on envoie sur quelle opération, etc. Les recrutements et puis évidemment une grosse charge administrative, hein, comme il se doit.
Alors je suis un peu déçu, je vais vous le dire, j'arrive ici sur ce chantier, je suis un peu déçu. Moi j'ai encore l'image de l'archéologue de Jurassic Park, quoi. Le mec qui a 50-60 ans avec le gros chapeau de cow-boy presque. Et là je me retrouve avec quelqu'un qui est jeune, qui a une veste orangée, une grosse pelleteuse pour creuser. C'est une image qu'on a de l'archéologie.
L'archéologie des anciens, ouais. Mais c'est dépassé tout ça. Oui. Maintenant, ce sont des jeunes. Là. Notre équipe est complètement renouvelée et très, très, très dynamique. Donc ça renouvelle aussi le regard qu'il y a. Ils ont des méthodes, des idées. Ça dynamise la cellule. Donc on est en pleine expansion. Là. On est en plein dynamisme en tout cas.
Est-ce que ça encore d'ailleurs, quand vous recevez des enfants, est-ce que ça fait encore rêver ça au final?
Ah oui, beaucoup d'enfants veulent être archéologues.
Ils y arriveront.
Oui, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, mais ce n'est pas qu'ils n'y arriveraient pas à cause des compétences, mais c'est parce qu'il n'y a que très peu de postes. Hein. Mais ils peuvent faire de l'archéologie les étés dans des chantiers. Hein. Enfin, il faut avoir 18 ans en principe, hein. Mais bien sûr qu'ils peuvent en faire.
Alors, il faut faire quoi comme étude, Étienne, pour, si on veut être archéologue, pour terminer?
Tout dépend de la spécialité, mais globalement, on est au moins sur un master d'archéologie. Après, il y a plusieurs masters en fonction de la période de spécialisation, etc. Et puis, ça peut aller jusqu'au doctorat, voire le post-doctorat. Donc, entre bac plus 5 et bac plus 8, on va dire.
Eh bien, je vous remercie. Caroline May, merci beaucoup. Merci Étienne Lalot. Étienne Lalot qu'on va retrouver dans un prochain reportage pour nous parler d'une fouille. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vous en saurez plus.